Alors, j'ai le plaisir d'avoir maintenant au téléphone Christophe Morel. C'est le directeur de la Ligue de protection des oiseaux du Tarn. Il est ornithologue et on va l'appeler pour prendre des nouvelles de ce couple de faucons pèlerins qui a élu domicile sur la cathédrale d'Albi et qui est en vedette dans un documentaire de Pascal Cardeillac, actuellement visionnable sur le site France5.tv. TV. Christophe Morel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être sur CFM Radio et Radio Laconne pour répondre à quelques questions. Alors d'abord, peut-être pouvez-vous nous présenter la LPO du Tarn ?
Alors la LPO du Tarn donc, est une association qui va bientôt fêter ses 40 ans puisque initialement la LPO Tarn a été créée en 1982 dans un petit village des Monts de Laconne à Montredon-la-Bessonnier. Ça s'appelait pas LPO Tarn à l'époque, mais ça l'est devenu à partir de 1998. Voilà, l'évolution du groupe ornithologique du Tarn créé à l'époque est devenu LPO Tarn en 1998.
Avec des professionnels ou avec des passionnés bénévoles au départ ?
Alors, principalement que des bénévoles. Donc, ça a été une association, je dirais, issue de trois jeunes, on va dire, du village qui étaient passionnés de nature. Et ensuite, beaucoup d'autres personnes se sont agglomérées autour de cette initiative. Le premier salarié, en l'occurrence moi-même, a démarré en juillet 1990, notamment pour la mise en œuvre d'une réserve naturelle qui a été créée dans le sud du département en collaboration avec une collectivité locale, c'est la réserve naturelle de Cambounet-sur-le-Sort.
Christophe Morel, vous êtes le directeur de la LPO du Tarn. Qui a la présidence ?
La présidence est assurée par une présidente qui s'appelle Evelyne Habert.
D'accord. Quelles sont vos activités durant toute l'année ?
Donc ça s'articule, comme la plupart des associations de protection de la nature, ça s'articule autour de, je dirais, de trois thématiques. Tout ce qui concerne l'amélioration des connaissances, donc des bénévoles et des professionnels qui parcourent le département pour glaner des observations de nature, principalement d'oiseaux, mais pas que. Ça s'est beaucoup développé sur d'autres groupes d'espèces, comme les papillons, les libellules, les mammifères, etc. Donc l'amélioration des connaissances d'un côté, tout ce qui touche l'information, sensibilisation de l'autre. Donc faire partager cette connaissance au plus grand nombre et tout type de public, voilà, pour mieux découvrir et connaître son patrimoine naturel. Si on se met à l'apprécier davantage, je pense qu'on est plus sensible et pourquoi pas actif pour préserver ce patrimoine-là. Et le troisième volet, c'est effectivement tout ce qui tourne autour de la protection de la nature, de notre patrimoine naturel, au travers de différentes, il y a différentes manières de procéder. Bon, je parlais tout à l'heure de la réserve naturelle de Cambounet-sur-le-Sort. Mais il y a bien d'autres manières d'agir pour la protection de la nature en accompagnant toutes celles et tous ceux qui veulent le prendre en considération. Et ces dernières années, je dirais que de plus en plus, les pouvoirs publics et les collectivités locales qui souhaitent un petit peu s'emparer de ce sujet et de voir de quelle manière, je dirais, à leur manière, à leur façon et avec leurs outils, ils peuvent contribuer à la préservation du patrimoine naturel tarnais.
Comment se compose l'équipe de la LPO du Tarn aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je dirais qu'il y a, on va dire, 5 salariés en CDI donc qui travaillent sur tous ces sujets-là, les trois grandes thématiques que je viens un petit peu d'évoquer. Et ensuite, bon an, mal an, en fonction voilà, du volume d'activité que nous avons sur une année, voilà, il y a recours à un ou deux CDD, services civiques, stagiaires, mais également le bénévolat qui reste toujours très actif au sein de l'association et qui fait la part belle, au volume d'activité qui est réalisé par l'association. Et toutes ces activités, on peut les retrouver, je pense notamment sur notre site internet, hein, en tapant sur Google LPO Tarn, on accède sur notre site internet et là il y a un certain nombre de documents qui sont téléchargeables, dont je dirais les rapports d'activité de l'association où on peut découvrir tout le panel d'activités réalisées d'une année sur l'autre, à la fois par les salariés et les bénévoles qui je dirais, on est avant tout une association, donc l'implication des bénévoles reste essentielle.
Alors, on est en compagnie de Christophe Morel, directeur de la Ligue de protection des oiseaux du Tarn. Christophe Morel, depuis le temps que cette association existe, j'imagine que vous comptez les oiseaux, vous avez cette mission un petit peu de regarder comment se porte notre biodiversité. On parle beaucoup de disparition des oiseaux, est-ce que c'est le cas dans le Tarn ?
Alors, malheureusement, je dirais que le département du Tarn, malgré, je dirais, la beauté de ses paysages et surtout la diversité de tous les milieux naturels que nous avons, n'est pas épargné, effectivement, par la régression, je dirais, de la biodiversité d'une manière générale. Donc, oui, on constate, je dirais, alors, la disparition de certaines espèces, c'est malheureusement déjà le cas depuis une quinzaine d'années pour certaines espèces. Bon, vous parliez, je parlais tout à l'heure des monts de la Cône. Il y a une espèce qui a disparu des zones humides et des monts de la Cône, qui est un petit passereau très coloré, qui est un passereau migrateur, que l'on n'observe plus malheureusement maintenant dans les monts de la Cône. Pas que les habitats naturels se soient considérablement dégradés dans les monts de la Cône, mais c'est la dégradation d'une manière générale des zones humides un petit peu partout dans le monde, en Europe et en France, qui font que cette espèce a du mal à trouver, je dirais, de quoi subsister. Donc cette espèce s'appelle le tarier des prés, que les gens peuvent aller voir éventuellement sur Internet pour voir à quoi ressemble cet animal. On a aussi un petit héron qu'on appelle le Blongios nain, qui est le plus petit héron d'Europe qui a disparu, qui nichait dans le département du Tarn. Il y a à peu près une dizaine de couples il y a 25-30 ans. Et cette espèce a complètement disparu, également avec la dégradation des zones humides. Et après, on a beaucoup d'autres espèces d'oiseaux qualifiées comme communes, dont on peut malgré tout constater la régression. Et c'est pas seulement nous qui le constatons, hein, quand on rencontre des gens en ville comme à la campagne, pas mal de gens à la campagne, par exemple, constatent un petit peu la raréfaction, les effectifs bien moindres, par exemple des grives, hein, qu'on pouvait voir autrefois à la campagne, aussi bien en période, je dirais, d'hivernage qu'en période de reproduction. On constate effectivement quand même une baisse des effectifs, des espèces considérées comme communes autrefois et qui aujourd'hui, malheureusement, deviennent beaucoup plus sensibles.
Parmi les causes, vous notez la disparition des zones humides, mais on peut parler aussi de pollution ou encore de réchauffement climatique ?
Alors, je dirais que c'est multifactoriel. C'est pas toujours facile de porter une analyse globale. Ce qui est certain, c'est que l'évolution de certaines pratiques ou l'emploi donc massif dans certains cas de pesticides contribue en fait à réduire les sources de nourriture de la faune sauvage d'une manière générale. Donc, pas qu'il y ait forcément une atteinte directe, un empoisonnement, on va dire, des prédateurs. Ça peut arriver puisqu'on dans les analyses sanguines, on peut, comment dire, collecter des traces de polluants. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est malheureusement connu avec le DDT depuis les années 50, hein, qui a contribué à la raréfaction à l'époque du faucon pèlerin. Donc, il y a la banalisation des paysages, hein, qui fait que moins on a de paysages diversifiés, moins dans un secteur on a une multitude de milieux naturels, ben, plus on limite la diversité des espèces animales et végétales. Et les traitements contre les parasites des cultures, par exemple, ont un effet, je dirais, secondaire sur la disparition de toute la microfaune, de tout ce qu'on appelle la ressource trophique qui s'amoindrit et qui est en fait la source de nourriture d'un très, très grand nombre d'espèces animales. Donc, si les adultes ne peuvent pas correctement alimenter leur nichée, par exemple, mais la productivité par couple et par an chutant au fil des années, on a du coup beaucoup moins d'individus présents sur un territoire donné. Donc traitement et banalisation, je dirais, des paysages concourent considérablement. Le réchauffement climatique peut avoir des effets secondaires néfastes pour certaines espèces et bénéfiques pour d'autres.
On a vu par exemple.
Tout dépend comment on aborde le sujet.
Oui, pardon juste de vous couper, mais justement je parlais du réchauffement climatique parce qu'on a vu par exemple dans le Lot que les hirondelles n'ont pas migré au bon moment et certaines du coup ne sont pas parties et sont mortes de froid. C'est arrivé dans le Tarn ?
Alors. Ça peut être effectivement une des conséquences du réchauffement climatique, la présence plus grande d'espèces migratrices, comme les hirondelles, à la fois à l'automne ou des arrivées relativement plus précoces au printemps. Mais c'est une tendance générale qui commence à se mesurer. Elle n'est pas forcément identique d'une année sur l'autre. Par contre, effectivement, l'année dernière, en fait, on a eu un phénomène, je dirais, météorologique que l'on a très rarement constaté jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'on a eu une vague de froid et pluvieuse qui s'est abattu en septembre-octobre, alors qu'en règle générale, on a une arrière-saison qui est plutôt très sympathique, puisque souvent, on dit qu'on a une espèce d'été indien dans le courant du mois de septembre-octobre. Et en fonction des espèces d'hirondelles, il n'est pas rare d'avoir des hirondelles qui finissent de partir en migration pas avant la mi-octobre. Donc là, je dirais, il n'y a rien d'aberrant. C'est fréquent que l'hirondelle des fenêtres, c'est-à-dire cette hirondelle qui niche à l'extérieur sous les génoises et qui construisent les nids à l'extérieur, on a des individus qui partent relativement tard en migration dans le courant du mois d'octobre. Mais cette vague de froid qui s'est abattue avec des très basses températures associées à une forte humidité a effectivement piégé un très grand nombre d'oiseaux qui n'étaient pas encore partis en migration. Et effectivement, ça a été une hécatombe dans tout le massif central, y compris le département du Tarn, où plusieurs dizaines d'individus ont été recueillis, blessés, très affaiblis, ou carrément mortes. Et on a eu le cas aussi avec une autre hirondelle qu'on a sur Albi, que vous avez dans le Lot, et dans beaucoup d'autres régions où il y a des milieux rocheux, c'est l'hirondelle des rochers qui se sédentarise de plus en plus. Alors ça, c'est par contre effectivement un phénomène nouveau qu'on constate depuis petit à petit une vingtaine d'années. Et par exemple, typiquement sur Albi, on avait jusqu'à 170 individus qui passaient tout l'hiver, malgré des hivers un petit peu rigoureux. Et cette vague de froid très humide qui s'est abattue a fait pratiquement disparaître pratiquement 90% des effectifs que l'on pouvait observer sur l'Albigeois.
Alors, Christophe Morel, directeur de la Ligue de protection des oiseaux du Tarn. Si je vous appelle aujourd'hui, c'est aussi pour parler de ce couple vedette de la cathédrale d'Albi, ce couple de faucons pèlerins qui est installé là depuis de nombreuses années maintenant. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ?
Alors, les présenter, ils sont... Alors, on a découvert la présence d'un couple de faucons pèlerins à la fin des années 80, plus précisément à l'automne 1988, sachant que cette espèce-là, en milieu urbain à l'époque, les cas étaient quand même relativement rares en France, un peu plus développés en Belgique et en Allemagne. On a pris l'initiative de rencontrer à l'époque l'architecte des bâtiments de France, qui était Monsieur François Tourtoin, qui nous a fait confiance et qui a accepté qu'on installe un nichoir sur la cathédrale d'Albi, puisque la particularité des faucons, et notamment du faucon pèlerin, c'est qu'en Europe occidentale au moins, cette espèce niche dans les rochers et niche à même le sol sans même construire de nid. Voilà, donc comme les rebords de la cathédrale n'étaient pas favorables pour la nidification de cette espèce sans que les œufs se mettent à rouler et chuter au pied de la cathédrale, on a eu l'idée de proposer l'installation d'un nichoir pour une hypothétique nidification un jour de ce couple, puisqu'on n'avait pas du tout la garantie à l'époque que les faucons pèlerins allaient décider de nicher. Mmh. Voilà, et donc depuis, l'aventure est partie et on a un couple qui a émis, on va dire, qui a donné naissance aux trois premiers jeunes faucons de la cathédrale en 2001. Donc il a fallu attendre jusqu'en 2001 que le processus se mette en place. Et voilà, depuis, je dirais, 1988, on a eu plusieurs individus qui se sont relayés sur l'édifice, puisque l'âge moyen d'un faucon pèlerin dans la nature, c'est de l'ordre de 12 ans. Donc vous voyez, depuis 1988, on n'a très certainement pas affaire aux mêmes individus. Et ce n'est qu'à partir de 2007-2008, avec la forte implication de la ville d'Albi, que l'autorité administrative, les architectes et bâtiments de France, nous ont autorisé à installer des caméras sur la cathédrale pour pouvoir rentrer un petit peu dans l'intimité de ces faucons. Et depuis 2008, on sait qu'on a affaire à la même femelle, puisqu'elle a une petite décoloration sur une aile. Elle a des plumes légèrement blanchâtres au milieu du gris. Du gris qui caractérise un petit peu le plumage des adultes et qui nous permet de voir qu'on a, on a toujours affaire à la même femelle mais qui aujourd'hui commence à être effectivement un petit peu âgée. Voilà, depuis 2007, au moins elle fréquente le nichoir puisque les premières images obtenues avec ces caméras montraient qu'on avait déjà affaire à une femelle adulte, donc un oiseau qui avait déjà au moins 3 ou 4 ans.
D'accord. Et vous nous avez dit durée de vie à peu près d'un faucon, 14-15 ans, c'est ça? Donc elle est, c'est une grand-mère, du coup.
Voilà. Alors, dans la littérature, c'est 12 à 14 ans. Et aujourd'hui, cette femelle, on estime qu'elle approche les 10, entre 16 et 18 ans.
D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose qui peut l'empêcher de pondre des œufs, de se reproduire, de faire des petits?
Alors, pour ça, oui, c'est ce qui se passe, malgré que depuis 2001 jusqu'en 2016-2017, de mémoire, il y a à peu près 48 jeunes qui se sont envolés de la cathédrale d'Albi. Là, oui, je pense que la femelle, effectivement, elle est atteinte, je dirais, par la limite d'âge en termes de reproduction. Et ces dernières années, elle avait déjà du mal à pondre des œufs. Pas d'éclosion, et là, il y a même plus d'œufs pondus, même si les deux partenaires, mâles comme femelles, on observe, je dirais, tous les comportements de ce qu'on appelle les parades nuptiales, avec les accouplements, les offrandes de proie du mâle à la femelle, puisqu'il y a, je dirais, le mâle a une certaine galanterie à offrir la nourriture à la femelle avec tout un rituel. Donc tout ça, on continue de l'observer, mais sans pour autant que la femelle puisse pondre. Donc je pense qu'effectivement, physiologiquement parlant, la femelle aujourd'hui ne peut plus fabriquer d'œufs.
Elle sera remplacée peut-être par un... Ce couple-là sera remplacé peut-être par un autre couple.
Alors, c'est pas impossible, c'est ce que nous attendons depuis quelque temps. Alors, je dirais attendons même avec impatience, puisque pour la découverte du public, quand il y a des œufs, des éclosions, des journaux en vol, c'est entre les caméras et toutes les animations que nous pouvons être amenés à faire depuis les jardins du Palais de la Berbie. C'est beaucoup plus actif quand il y a des jeunes à l'envol et qui se font nourrir par les adultes. Mais c'est moins intéressant, effectivement, moins attractif pour ce côté-là. Par contre, pour les biologistes que nous sommes, c'est une donnée quand même qui est très intéressante, parce que on a rarement la possibilité d'avoir dans la nature la possibilité de suivre la biologie avec autant de détails et de voir qu'on a toujours affaire à la même femelle qui défend son territoire sans pour autant pouvoir se reproduire. Donc, nous, ce qu'on observe depuis déjà plusieurs années, c'est que régulièrement, il y a d'autres oiseaux, d'autres faucons pèlerins adultes qui aimeraient bien prendre la place de ces faucons sur la cathédrale. Mais les autres faucons étant assez territoriaux, ils ne cèdent pas la place comme ça. Donc, arrivera bien un moment où la femelle décédera de maladie, d'accident, je ne sais trop quoi, ou sera évincée par une femelle, on va dire une nouvelle femelle un petit peu plus effrontée, qui fera sa place et qui donnera la possibilité d'imaginer une nouvelle ère de reproduction et de naissance sur la cathédrale.
Et que vous ne manquerez pas évidemment d'observer, puisque Christophe Morel, et c'est ce qu'on voit dans le documentaire de Pascal Cardeillac qui est actuellement disponible sur France 5.tv, vous venez de changer les caméras. Vous avez vu ce documentaire de Pascal Cardeillac?
Oui. Donc, puisqu'on a été effectivement associé à ce travail de France Télévisions et l'initiative de ce réalisateur, qui est effectivement de mettre en valeur un petit peu, je dirais, la faune sauvage dans les monuments historiques. Et donc, la cathédrale d'Albi a été sélectionnée pour ce premier opus, parce que peut-être qu'il y en aurait d'autres si effectivement l'audience est bonne. France Télévisions ne se refuse pas la possibilité d'imaginer un autre numéro dans quelques temps. Effectivement, avec la ville d'Albi, on envisageait déjà de renouveler les caméras que nous avions installées en 2007. Et effectivement, les caméras que nous avons pu mettre, c'est une autre technologie avec des images d'une bien meilleure, qualité, avec des éléments aussi techniques et des logiciels de traitement d'images que nous ne pouvions pas avoir avec le système que nous avions installé il y a une douzaine ou une quinzaine d'années. D'ailleurs, certaines de ces images ont été mises à la disposition du réalisateur. Donc, dans le documentaire, on voit des images prises avec les anciennes caméras et des images prises avec les nouvelles caméras qu'on a installées sur la cathédrale. Donc, toutes les images plan serré que l'on voit des faucons dans les nichoirs ou sur les gargouilles sont issues des caméras de la cathédrale.
Et pour voir, est-ce qu'on peut actuellement voir en direct les faucons pèlerins de la cathédrale d'Albi? Et comment fait-on?
Alors, Alors, en direct, pour l'instant, non. C'est un projet hein, depuis quelque temps par la ville d'Albi, avec le service informatique de la ville. Donc, ce qu'il y a de disponible sur le site internet de la ville d'Albi, ce sont des séquences vidéo qui ont été faites, des faucons à partir de ces caméras. Ce qu'on appelle le streaming et de pouvoir visionner en direct ou avec un léger différé, c'est un projet qui finira par voir le jour. C'était quelque chose qui était prévu, mais qui a été un petit peu retardé pour d'autres raisons. Mais ça fait bien partie des projets, donc oui, ça finira par être effectif dès que ça sera possible.
En attendant, donc, on peut découvrir votre travail, ces caméras, puis ces faucons, soit évidemment en allant sur le site de la LPO d'Albi, le site de la mairie d'Albi, et puis en allant voir ce très très beau documentaire de Pascal Cardeillac qui s'appelle « La vie sauvage des monuments historiques ». Merci beaucoup, Christophe Morel, d'avoir été avec nous pour en parler sur CFM Radio et Radio Laconne. Merci.
Avec plaisir, merci.